Bonjour.
C'est parti. Bonjour Alain. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On démarre une nouvelle session d'Indigène. Oh, juste avant, une petite pensée pour Pierre Dardon. En fait, les 50 ans de sa disparition. Alors, une c'est pensée vrai. Profonde, c'était la fortune vient en dormant, ce qui n'empêche pas les emmerdements de revenir au réveil.
Donc, pas mal. Pour stimuler, pas mal. Pas mal.
Pour relancer une semaine, je trouve que ouais,
c'est pas mal pour débuter la semaine.
Bon, on y va. On est parti au Pérou. On va découvrir ou redécouvrir une chanteuse qui était, qu'on peut peut-être comparer à la Calas. Alain va nous faire deux mots sur sa biographie. Elle avait une voix beaucoup plus forte. Elle avait une voix perchée sur 4 ou 5 octaves, tandis que la Calas était sur 3 octaves. C'était également une soprano. Je veux parler d'Ima Sumat, une grande chanteuse péruvienne dont tu vas nous donner d'ailleurs le nom complet.
Non, je pensais que tu allais m'épargner cette...
Oh, pas du tout.
Non. Bon, alors on va y aller quand même. Ima Sumat, elle s'appelait à la naissance Zoila Augusta Imperatrice Chavarri del Castillo. Elle est née en 1922, le 13 septembre, dans un village à proximité d'Ixocan, dans la région de Cajamarca, ce qu'on pense, ou à Cavallo, selon d'autres sources. Et elle est décédée le 1er novembre 2008 à Los Angeles. Et c'est donc une chanteuse, comme on l'a dit, péruvienne.
D'origine Inca, d'ailleurs.
Oui, d'origine Inca, effectivement, dans un département qui a connu les Incas, où ses parents étaient propriétaires d'une hacienda. Elle est la dernière de 6 enfants. Elle avait donc 3 sœurs et 2 frères. Et dans la mythologie, dans la légende Inca, la position de dernière, d'ailleurs, faisait d'elle la descendante de la grand-mère, de la grande lignée royale Inca, pour la raison suivante: le dernier des enfants bénéficie de l'expérience et de la sagesse des autres enfants de la famille. Alors certaines bios ont même affirmé qu'elle aurait été l'une des descendantes avérées du dernier souverain de l'Empire Inca, qui s'appelait Atahualpa, dont on a fait une chanson d'ailleurs, souvenez-vous. Depuis son plus jeune âge, Perita, surnom que lui ont donné ses amis, a exprimé le désir d'être chanteuse, un projet fermement repoussé d'ailleurs par ses parents. Son père, architecte d'origine espagnole, et sa mère, enseignante d'origine inca et européenne, pour ses deux parents, d'ailleurs, la chanteuse n'est pas une carrière envisageable pour une jeune fille.
Et ça faisait pas sérieux, quelque part.
Ça se faisait pas trop à l'époque. Un peu plus qu'aujourd'hui, quand même. Zoila s'entraîne au chant dans la montagne. Elle répète des chansons folkloriques de son pays. Elle imite le chant aigu des oiseaux. Une pratique qui lui permettra de devenir l'une des rares chanteuses à acquérir une voix qui s'étend sur quasiment 5 octaves. Alors, très jeune, elle a commencé à 13 ans, elle participe à la fête de l'Inti Raymi, de son village natal. L'Inti Raymi, c'est une cérémonie religieuse typique du Pérou, organisée chaque année au mois de juin, au moment du solstice d'hiver, qui coïncide avec la fête chrétienne de la Saint-Jean, avec des rassemblements, des processions, etc. Elle est repérée par un fonctionnaire en 1941, par un fonctionnaire du ministère de l'Éducation, alors qu'elle participe à la fête. Elle chante devant un public de plus de 25 000 personnes, quand même, déjà. Elle avait été choisie en raison de ses capacités vocales inhabituelles, et notamment dans le cadre d'un amphithéâtre naturel de la banlieue de Lima. Un fonctionnaire a fait part de cette découverte au ministre de l'Éducation, et le ministre décide de l'envoyer à Lima avec sa famille, où elle intègre l'Institut Santa Teresa, le meilleur collège catholique pour enfants de la capitale. Elle participe alors à un concert de Cajamarca, au cours duquel elle est repérée par un certain Moisés Vivanco, un musicien originaire de la ville d'Ayacucho, qui lui propose d'intégrer une formation locale. Elle commence sa carrière internationale en avril 1942 dans une radio, à la radio argentine, avec une troupe sous le pseudo de Ima Sumat. C'est le nom en quechua de l'espagnol. Elle effectue une tournée en Amérique du Sud, en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique en 1945 jusqu'en 1946, et puis elle part aux États-Unis avec des premiers enregistrements qui datent de 1943. Elle arrive à New York en 1946 et dans le cadre d'un trio Inca Taqui, elle part chanter, faire une tournée avec sa guitare et avec sa cousine Cholita Rivero au chant et à la danse. Il s'installe à New York et elle disparaît de façon tragique d'ailleurs dans un accident d'avion. Grace Moore disparaît dans un accident d'avion à Copenhague sans avoir pu rencontrer Ima Sumac depuis son arrivée aux États-Unis. Le consul général du Pérou aux États-Unis reconnaît en 1946 que c'est une descendante de l'empereur Inca Atahualpa, par sa mère d'ailleurs. Et ensuite, elle poursuit sa carrière avec des triomphes à New York entre 1949 1953, un contrat avec Capitol Records, ensuite avec un certain nombre d'albums, 6 albums originaux avec Capitol Records de 1950 à 1959, qui seront d'ailleurs difficiles à trouver durant une dizaine d'années avant d'être réédités en CD à partir de 1995. Elle prépare donc un certain nombre d'albums dans ces années-là, avec notamment une version de dite Boy and Girl de Ecstasy Baby, réalisée en février 1950. À partir de 1951, elle participera à une comédie musicale à Broadway, où l'actrice Barbara Cook fera ses débuts. Un deuxième disque sort en 1952 sous le titre Legend of the Zone Virgin, avec 12 titres enregistrés en septembre 51 à Hollywood. Elle tourne ensuite entre 54 et 66, d'ailleurs avec des films, dont notamment Le Secret des Incas, où elle réalisera avec Jerry Hopper et Charlton Heston un film resté encore assez connu, un film tourné d'ailleurs en partie dans les ruines du Machu Picchu, qui sortira en 1954. En 1955, elle est naturalisée américaine et puis elle sort un certain nombre d'albums, 5, 6 albums, et à la fin des années 50, elle partira en tournée en Amérique du Nord avec, en 1960, des problèmes de couple face à des problèmes avec le fisc américain, des rencontres avec notamment un certain Maurice Chevalier, qui disait d'elle, d'ailleurs c'est une des rares chanteuses que l'on peut écouter, les yeux ouverts, peut-on entendre, à la télévision française de la part de Maurice Chevalier. En 61, elle sort un album Live in Moscow et elle prend sa retraite en 1965, où elle fait croire qu'elle divorce une seconde fois de Moisés Hincapié. Alors en voyage en Espagne, elle rentre au Pérou à partir de 1968, où elle s'installe pour vivre jusqu'au milieu des années 80, proche de ses parents. Et elle retourne donc enregistrer un nouvel album avec la compagnie Walt Disney. Et on la verra encore chanter à la télévision américaine dans l'émission de David Letterman, Late Night, en 1987. Et elle sortira encore quelques albums, notamment jusqu'en 1990. Et en 1992, Véronique Mortaigne, critique musicale, écrira dans le journal Le Monde à propos de sa venue. Les plus dévots se demandaient encore si, au premier frémissement de rideau, cela n'allait pas tourner à la catastrophe. La voix d'une chanteuse capable d'escalader les octaves, de vendre plusieurs dizaines de millions d'albums à travers le monde dès le début des années 50, avait-elle résisté à l'épreuve du temps ? Ima Sumac, insaisissable star de l'ancienne génération, allait elle-même venir à Bourges. Elle fut au rendez-vous, donc au Festival de Bourges, et elle chanta merveilleusement bien, enveloppée d'un voile vert. Voilà les critiques de l'époque. Elle passera ensuite en Allemagne, à Hambourg, et puis retournera aux États-Unis et au début de 2006, Ima Sumac retournera 2 semaines au Pérou pour recevoir les félicitations du gouvernement pour son aide à la diffusion de la culture péruvienne. Elle rentrera ensuite aux États-Unis et mourra dans une clinique médicalisée de Silver Lake, un 1er novembre 2008, des suites d'un cancer. Voilà un peu quelques mots, l'histoire mouvementée de Ima Sumac.
Effectivement, un résumé de sa biographie. Elle n'est pas passée a priori effectivement en France, donc c'est l'occasion pour nous de faire un tour rapide de sa discographie. On va commencer par écouter un morceau qui fut l'un de ses tubes, on va dire ça comme ça. Ouais, Ra. C'est parti, c'est pour tout de suite. Oh, Hein,
c'était la danse.
Quelque chose.
C'était la danse des vents.
C'était la danse des vents. Ouais, ouais. Mais oui, cette chanson-là vous donne un petit peu une idée de l'étendue de l'amplitude vocale qu'avait Ima Soumak. On va continuer, ne serait-ce que pour le plaisir. On enchaîne avec Babalou. À votre dépaysement. Sur les 90.6, on va continuer avec Ima Soumak. Effectivement, on va enchaîner Jundla et Amor Indio, ne serait-ce que pour votre plaisir.
babou 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 babou.
Toujours à la découverte, effectivement, de l'amplitude de son répertoire. Et pour ce faire, je vais vous proposer Caribe Tati. On enchaînera avec Colitas Pounenas. Alors, c'est parti ?
Allez, on y va.
Los ojos me arden de llorar.
boum.
Qui, c'est ce qu'on se disait un petit peu en antenne avec Alain, a le talent de mélanger des voix quasiment d'opéra avec du folklore beaucoup plus traditionnel andin. Et pour clore quasiment cette émission, on va enchaîner avec Malaya et Surei Surita. Alain, c'est quand tu veux.
On y va.
Oh!
On sent bien l'influence du folklore local.
Ouais, on sent l'influence du folklore et quelques notes d'opéra. Un mélange qui est assez particulier, c'est charmant. Pour s'en persuader et s'en repersuader, on va écouter un dernier morceau, Surai Surita. Espérant que cette belle voix vous ait bercé, c'est une voix qu'il fallait découvrir, effectivement, on ne la connaît pas beaucoup chez nous en France. Indigène, c'est aujourd'hui, c'est fini. Il n'est pas de bonne compagnie qui ne se quitte. Alain, on va se dire au revoir poliment.
On dit comme ça.
On dit comme ça, et puis à lundi prochain. Portez-vous bien, bonne semaine à vous, bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.